Un noble rossignol à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, apprenait sur un arbre artificiel, dans une cage d'or, l'hymne officiel. À la liberté, à la liberté. Ta 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 la li la li la li la liberté. La li la li la li la li la li la liberté. Comme mes fils est un capouné, comme mes fils est un capouné, ils avaient faim et soif. Ils étaient des milliers, on a tiré en l'air pour les intimes, 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 intimidés. Pour les intimes, 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 intimidés. Bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Simplement, comme on tire au fusil dans la vie. Mais l'un d'eux se blessa dans sa sauvagerie à mort. Aussi vrai que la foule est un enfant qu'il ne faudrait jamais laisser seul un instant. Que dis-tu, rossignol, oiseau de bon augure ? J'écris l'histoire. Ah oui, eh bien bonne écriture. Un rossignol du peuple à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, qui avait le désir d'égayer la terre, répondit par un chant révolutionnaire à la liberté. À la liberté. Ta 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 la li la li la li la liberté. La li la li la li la li la li la liberté. Comme bébé c'est un capoulet, comme bébé c'est un capoulet. Nous avions faim et soif. Nous étions des milliers. Ils ont tiré en l'air pour nous intimes, 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 intimidés. Pour nous intimes, 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 intimidés. Calmement, comme on tire au fusil dans la vie, l'un de nous fut blessé par tant de courtoisie à mort. Aussi vrai que la foule est trop timide, et pour tuer il faut être calme et lucide. Que dis-tu, rossignol, oiseau de bon augure ? J'écris l'histoire. Ah oui, eh bien bonne écriture. L'un voulant comme l'autre égayer la terre, chacun a son idée, à sa manière. De rossignol chantait à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, à moins que ce ne soit au jour d'aujourd'hui. Ta 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 la 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 la.
Bonjour, nous venons d'écouter Gianni Esposito qui interprétait une de ses compositions, un noble rossignol à l'époque Ming. En ouverture de cette émission, la 14e du nombre consacrée à Elsa Triolet, avec Maria Berlioz et Jean Knopf, avec nous dans les studios de l'association Salaët, bien sûr. Et ben, cette émission sera consacrée à un certain nombre de sujets qui ont trait aux années 50 se déroulant. Quoi. Voilà, bonjour à vous. Bonsoir. Et je vous donne la parole.
Voilà, on va aujourd'hui débuter par l'évocation d'un roman qui a suscité beaucoup de controverses à l'intérieur du Parti communiste et qui en même temps clôt une période pour Elsa Triolet, cette période disons très en accord avec la réalité politique, la réalité historique et donc ce roman, c'est Le Monument. Alors Le Monument, qui est donc paru en 1957, donc 4 ans après la mort de Staline, hein, qu'on a évoqué notamment via la fameuse affaire du portrait de Picasso. Ce monument va poser la question de la création et du rôle de l'artiste dans un État socialiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, Elsa est partie d'une anecdote, hein, d'une rencontre que Maria va nous rappeler avec des amis qu'Elsa a reçu un soir chez elle.
Oui, c'était à l'automne 1956. Donc Elsa reçoit des amis tchèques. Et ceux-ci ont raconté l'histoire d'un sculpteur pragois qui s'est suicidé à cause de sa propre œuvre. C'était une commande de l'État. C'était un gigantesque monument élevé à la gloire de Staline, bien sûr, à l'époque. Et donc, il avait fait ce qu'il avait pu avec la meilleure volonté, mais le résultat s'est révélé hideux. Il n'a pas du tout apprécié son travail. Il voulait le détruire pour ne plus le voir, évidemment. Mais c'était impossible. Vous imaginez bien, on est 3 ans après la mort de Staline, après une commande aussi importante, on n'allait pas toucher à cette statue qui représentait Staline. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est que ce sculpteur avait légué l'argent reçu pour son œuvre aux aveugles, qui, eux, ne pourraient jamais voir leur ville défigurée par cette statue. Donc, ça veut dire qu'il était absolument conscient de cette œuvre qu'il n'aimait pas du tout, au point d'en faire profiter ceux qui ne la verraient pas. C'est quand même fort. Et donc, Jean va nous expliquer un peu après la dépression qui en a suivi par la suite.
Voilà, tout de suite... Après l'inauguration, les médecins avaient envoyé Lefka, donc Lefka c'est le nom du sculpteur, du personnage principal du roman, dans une maison de repos. Il était dans un état d'épuisement moral et physique qui le laissait prostré, sans volonté ni désir autre que de rester seul, couché, les yeux fermés. Il ne lisait pas, n'écoutait pas la radio, mangeait ce qu'on lui apportait dans sa chambre, refusait le courrier, exigeait des somnifères. Il n'était que depuis peu dans la maison de repos quand survint la mort de Staline. On la lui annonça avec des ménagements. D'avoir sculpté Staline semblait faire de lui un parent très proche. Lefka parut comme frappé de stupeur. Et tout ce qu'il dit fut « J'ai donc fait un monument funéraire ?» Jugé ainsi des événements les plus grands par rapport à ses préoccupations personnelles, les médecins regardèrent cela comme un signe de la gravité de sa dépression. Lorsqu'il rentra dans la capitale, après de longs mois à la fin de l'été, on y était déjà habitué à ce monument. Donc, Elsa dresse le portrait de ce sculpteur. Bien sûr qu'on retrouve à travers tout ça ce leitmotiv qu'elle évoque déjà, qu'on a vu dans d'autres œuvres précédentes, hein, notamment ce spectre un petit peu omniprésent de Mayakovsky, hein, l'artiste qui se débat au milieu de ce monde politique. Mais surtout, il y a un autre personnage qui est important dans le roman, et c'est sans doute celui-là qui suscite le plus de controverses. C'est un personnage qui s'appelle Torch dans le roman de Le Monument, et qui est en fait le secrétaire général du Parti communiste, qui va jouer un rôle important parce qu'il se rencontre avec Lefka, c'est lui qui commande donc l'œuvre d'art, qui discute avec lui lorsque Lefka hésite. Ce personnage, il est assez fidèle à cette réalité qui est celle des partis communistes aussi bien en Occident d'ailleurs que dans la partie qu'on appelle de l'Est. Ce sont ces, ces gens issus de la résistance antifasciste et qui se sont, c'est logique, hein, qui se sont retrouvés à la tête, à des postes importants. Hein. C'est toujours en général les vainqueurs qui occupent après la bataille les postes importants. Alors les communistes français ont été assez troublés par ce personnage de torche qui effectivement bon a une politique, même si c'est pas du tout un homme violent, il y a jamais de menace sur l'FK ou quoi que ce soit, hein, il y a pas de répression affichée, mais il y a tout de même un personnage bon qu'on peut qualifier de staliniens, hein, comme le sont bon à cette époque, hein, la gloire de Staline, c'est ce qu'on a du mal à évaluer aujourd'hui. La gloire de Staline, elle est quand même immense, hein, c'est Stalingrad, voilà, et c'est évidemment un événement historique considérable. Alors voilà, donc les militants du Parti communiste sont troublés, et il y a un certain nombre de réactions qui s'expriment, notamment dans le journal L'Humanité. Voilà. Et bien sûr, à l'inverse, hein, puisqu'on est quand même en pleine guerre froide, il y a un certain nombre de gens qui se réjouissent de ce portrait à charge, bien entendu. Donc, une fois de plus, comme dans l'affaire du portrait, Elsa Triolet et Aragon par derrière, bien entendu, sont un petit peu pris en otage entre les deux... donc entre deux camps, hein, si on peut dire. Alors, on revient au roman lui-même. Je vais vous lire un extrait où Levka découvre la statue, parce qu'en fait, donc il est allé en maison de repos une fois son œuvre terminée, parce qu'il est complètement épuisé. Puis bon, il va bien finir par ressortir et par découvrir. À son goût, cette monstruosité qu'il a produite. Des rayons éblouissants léchaient les vitres et jouaient dans les dentelles de pierre. Les longues aiguilles sur les toits d'ardoise piquaient les gros nuages blancs troués de bleu vif. C'était l'image même de la ville, comme elle se présentait dans un album populaire du XVIIIe siècle, avec les couleurs dépassant le dessin. Sauf que sur l'image de l'album, il n'y avait pas de monument au bout. Levka le regardait, ce monument. Il le regardait avec une intensité qui lui raidissait tous les muscles. Peut-être n'était-il pas si mal, ce monument. Peut-être était-il beau. Il le regardait et ne voyait qu'une sorte d'immense blocos de ciment, un édifice de guerre que l'on espère provisoire. La pointe verte d'autrefois, les arbres qui l'amenaient doucement, harmonieusement, en mourant, comme on dit, à la rivière. Tout était rasé, anéanti, remplacé par un terre plein de gris, horrible, comme une mutilation. Voilà. Alors, évidemment, on a du mal à comprendre aujourd'hui l'émoi qu'a suscité ce roman d'Elsa Triolet. Toujours est-il qu'il a été réel. Alors, elle a tout de même trouvé, il y a eu une réaction positive parmi les dirigeants du Parti communiste, et c'est celle de Francis Cohen. Hein, Francis Cohen qui témoigne en faveur d'Elsa et qui lui écrit « On y croit, parce que les choses sont comme ça, pas comme disent les autres, pas non plus comme nous le disions souvent. Et parce que vous êtes un très bon écrivain, vous connaissez les choses, les sentez et savez les dire. »
Alors à ce moment-là, Elsa va s'expliquer quand même, parce qu'au fond elle accepte pas si bien que ça que l'on parle si violemment de ses écrits, et elle dit pensez et écrire sur la mort volontaire d'un créateur, sur ce qui a pu l'y amener, est chez moi une sorte d'obsession. C'est que depuis plus d'un quart de siècle, je porte en moi la plaie ouverte du suicide de Maïakovski. Et récemment, en 1956, le suicide de Fadeïev. Après le 20e congrès, et probablement, sinon à cause, du moins en liaison avec. Je trouve que Elsa Triolet, bien sûr, elle écrit, mais elle parle politique, parce que c'est le contexte de son époque, mais au fond, elle a quand même un grand souci des gens qui créent. Oui. Et quand les suicides arrivent, bien sûr, elle en a été blessée parce que il y a eu Maïakovski, mais je crois qu'elle soulève le problème de l'importance lorsque un artiste va jusque-là.
Voilà. Puis de la liberté de l'artiste qui, parce que Levka, c'est quand même un authentique socialiste, un artiste d'avant-garde. D'ailleurs, au début du roman, on nous explique que il fait ses classes, notamment avec l'avant-garde les avant-gardes en France, il se forme là, donc on sait ce qu'ont été les avant-gardes en France, enfin dans d'autres pays d'Europe aussi, hein, l'Allemagne en particulier, mais ça a été important, donc c'est pas du tout, c'est un grand artiste, quoi, Levka. Et cette question, l'artiste, jusqu'où aller, etc. Alors, bon, Aragon va défendre le monument. Hein. Il écrit d'ailleurs « Le monument est le chef-d'œuvre d'Elsa Triolet pour l'écriture et la pensée, pour la perfection. » Bon, cela dit, bon, je ne sais pas, c'est toujours difficile de faire des classements, mais je pense que le monument, qui doit être difficile à trouver à l'heure actuelle en vente, je ne sais pas s'il a été édité d'ailleurs en livre de poche, mais c'est un roman qui est vraiment très intéressant à lire et ça corrige un petit peu toujours ces clichés qu'on entend, les staliniens, etc. Je trouve que Elsa Triolet, dans le monument, elle va très loin et elle va profondément, justement, comme le disait Maria, dans cette réflexion, justement, sur la relation de l'artiste et de la politique. Et c'est toujours difficile. Hein. Bon, aujourd'hui, par exemple, on sent le désintérêt d'ailleurs des artistes pour la chose politique. Mais cette relation, elle existe quand même et on en a besoin, quoi.
Donc. Oui, je pense qu'on en a besoin puisque dans des pays comme parfois la Palestine ou on a connu aussi en Amérique latine, il y a eu quand même beaucoup d'expressions de la part des artistes et donc ils ont été tout de même poursuivis, donc il y a quand même un grand lien,
oui,
entre la vie artistique et la politique.
Alors cela dit, avec ce roman, donc on est en 1957, si on fait le compte et le bilan, ben finalement ça fait 20 ans, hein, enfin même un peu plus, hein, puisque Elsa et Aragon sont mobilisés, hein, à l'époque du Front populaire, la lutte antifasciste, la résistance. Ensuite, le début de la guerre froide, etc., etc. Ben, finalement, ça fait plus de 20 ans qu'Elsa mène une activité via la littérature, finalement, assez militante, hein, en abordant des sujets sensibles, etc. Et puis également le CNE, hein, dont on a parlé, hein, qu'elle a lancé, la bataille du livre, etc. Et là, bon, ben, tout simplement, elle en a marre, quoi. Et donc, on est en 1957, hein, exactement le 10 avril 1957, pour être précis. Elsa démissionne du CNE. Et donc là, il y a une page qui va se tourner. Hein, c'est-à-dire que Elsa Triolet prend du recul, prend du champ par rapport à cette activité militante et avec ce que ça occasionne, hein, les polémiques, les attaques, etc., etc. Et on va entrer dans une autre période. On va entrer tout simplement dans les 10 dernières années de la vie d'Elsa Triolet. Alors le lien, on va peut-être le faire, puisqu'ensuite on va parler de sa participation à ce film Normandie-Niemen. On va quand même indiquer un événement qui est important pour eux, hein, au niveau du logement. Hein. On a parlé de la rue de la Sourdière, on a parlé également du monument. Mais la rue de la Sourdière.
Du moulin,
oui, pardon, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Mais à Paris, donc rue de la Sourdière, ils sont dans un deux pièces qui est au deuxième étage. Il se trouve que Elsa a des problèmes de santé qui ne vont faire que s'accentuer d'ailleurs jusqu'à son décès. Et elle marche avec difficulté. Hein. Elle a de l'artérite. Elle sera d'ailleurs opérée en 1961 à une opération qui échouera. Donc les deux étages de la rue de la Sourdière lui sont extrêmement pénibles, lui coûtent beaucoup. Donc c'est en 1960 qu'ils vont déménager et ils vont trouver, c'est dans les locaux du Premier ministre, rue de Varennes, au 56, et ils vont trouver donc dans un hôtel particulier dont la construction remonte à 1719, donc c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, assez monument historique. Ils vont trouver un appartement et Elsa s'en réjouit lorsqu'elle écrit à sa sœur. De ce point de vue, les lettres à la sœur sont intéressantes parce qu'on a plein de témoignages au niveau un petit peu du quotidien.
Nous avons signé un bail classique à 3, 6, 9 ans. Mais on peut considérer qu'il s'agit d'un bail à perpétuité. Nous n'avons pas réussi à en acheter un. Nos moyens ne correspondent pas à nos exigences. Nous le voulions dans le centre et que ce ne soit pas haut ou avec ascenseur et que la maison soit ancienne et l'ascenseur y soit rare. Et que ce soit tranquille. Bref. Le plan est rempli à 75% environ. L'appartement est vraiment très beau. Dans un ancien hôtel particulier à l'étage où se trouvent les chambres, les pièces ne sont pas très hautes de plafond. Les fenêtres sont au fond de grandes embrasures. Les murs sont en bois avec des placards profonds. Deux salles de bain. Et du coup, donc, Elsa est contente de tout ça. Et ils ont, en plus, à chacun, Aragon et elle, un bureau particulier. Et elle explique, séparé par un grand salon. Mais bien sûr, comme disait Jean, elle a des problèmes de santé. Et Elsa s'effraie à la perspective donc de ce grand déménagement. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est sûrement pas le mobilier qui doit être important, mais surtout toutes ces lectures, leur attirail d'écriture. Et elle envoie encore un petit mot à Lily. J'imagine Aragocha en train de faire les antiquaires, d'acheter des meubles pour toutes ces pièces. Oh, bien sûr, c'est formidablement intéressant et bien agréable.
Oui, c'est Lily, en fait.
Qui imagine
Aragon en train de courir.
De faire les antiquaires.
Donc voilà, bon, ils vont s'installer, donc, rue de Varennes. Je crois d'ailleurs que c'est grâce au premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui avait travaillé à la banque, mais qui avant était quand même agrégé de lettres et a écrit une anthologie de la poésie française. Ce bâtiment, on a posé une plaque à la Société des Amis Aragon il y a de ça 2 ou 3 ans. C'était bon à la mort d'Aragon, Jean Rista avait demandé que il soit transformé en musée. Puis Mitterrand, qui au fond aimait pas bien Aragon, avait dit bon bah faut demander au Premier ministre. À l'époque c'était Pierre Mauroy. Et puis bon, bah finalement, l'appartement a réintégré les locaux du Premier ministre. Et donc, il n'y a plus de traces de leur passage. Quoi. Évidemment, c'est bien dommage. Voilà donc en ce qui concerne bon, bah, ces événements de la vie quotidienne. Donc oui, avec quand même cette chose importante, parce que ça, on y reviendra dans la suite là, des émissions. Bon, quand même, c'est ces difficultés de santé de d'Elsa Triolet qui vont s'accentuer et l'incliner quand même à une certaine souvent une certaine noirceur hein, dans l'écriture et un certain pessimisme. Voilà.
On s'offre une pause musicale. Oui. Allez, on va la faire avec un texte de Elsa Triolet avec la collaboration de Jeanne Guilvic qui ont créé en 68, 17 textes de Guilvic et écrits à partir des personnages des manigances de Triolet, ont fait un album qui s'est appelé Chansons de Clarisse avec une interprétation de Jeanne Moreau. Le titre qu'on va écouter là s'appelle Les ennuis du soleil.
Penser que le soleil lui-même a des ennuis, que le soleil lui-même a de sombres histoires, avec de petits riens qui font les grands nuages, et d'autres petits riens qui font pire en lui-même. Même penser que le soleil lui-même a des ennuis, ah, que le soleil lui-même a de sombres histoires, ah, avec de petits riens qui font les grands nuages, et d'autres petits rien qui font pire en lui-même, même. Cela devrait pouvoir me consoler un peu.
Jeanne Moreau pour l'interprétation, Philippe Gérard pour la musique, j'avais omis de le dire. Donc, texte de Guilvic à partir d'écrits d'Elsa Triolet. Les ennuis du soleil était le titre de la chanson. Elsa Triolet, qu'on retrouve avec Maria Berloz et Jean Knopf pour évoquer maintenant l'écriture d'un scénario de film en 1959, aussi la même période.
Voilà, 60, exact. Il sort début 60, le film. Et en fait, ce projet est un très ancien projet, puisqu'il démarre en 1947, et donc il va seulement aboutir en 1960. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'évoquer une unité de militaires de l'armée de l'air, qui en 1942, refusant le régime de Vichy et l'armistice donc signé par Pétain, vont passer en Union soviétique aux côtés de l'armée soviétique et donc vont participer à toutes les batailles victorieuses contre les Allemands. Et ce groupe, on l'appellera le groupe de chasse Normandie-Niemen. Et c'est une conduite absolument héroïque, hein, puisque ce sont des... j'ai relevé, le bilan est quand même assez tragique, hein, puisque... ils ont perdu entre 1942 et 1945... Alors, ils ont remporté 110 victoires, hein, ce qui n'est pas rien, mais ils ont perdu 42 pilotes. Et ils ont donc été cités à l'ordre de l'armée soviétique. Enfin, c'est vraiment une grande page de l'histoire de la résistance. Donc, il s'agissait d'évoquer ça. Seulement, les choses se sont assez rapidement compliquées au niveau de l'écriture. Et évidemment, pour des raisons politiques, et puis n'oublions pas qu'il y a eu quand même cette période de la guerre froide, où l'ennemi c'était la Russie soviétique, et ont été associés à l'écriture de ce scénario trois auteurs, Charles Spaak, avec qui Elsa a eu quand même un certain nombre de difficultés, parce que Charles Spaak ne connaît absolument rien à la réalité soviétique, alors que, évidemment, Elsa veut l'évoquer. Et puis, le troisième scénariste, c'est Simonov, Constantin Simonov, avec qui Elsa et Aragon ont eu affaire et ont eu une célèbre controverse, hein, qu'on a évoquée, notamment à propos de l'art, hein, lorsque les Soviétiques traitaient Picasso et Matisse par les deux en termes d'art dégénéré un petit peu. Hein, bon, voilà. Donc ce projet va lanterner longtemps. Ce que j'ai omis de dire, c'est que le metteur en scène est Jean Dréville. Hein. Bon, le film finalement va aboutir. J'ai regardé dans Wikipédia où il y a de nombreux renseignements quand même sur les films. Dans la distribution, donc, on retrouve Gianni Esposito, qu'on a entendu en début d'émission.
Oui, qui a mené une double carrière d'acteur, de théâtre, de cinéma et chanteur aussi, auteur, compositeur, voilà. Interprète.
Et donc, dans la distribution, il n'y a pas de grandes vedettes, mais il y a un certain nombre de comédiens qui ont été, bon, qu'on a beaucoup vu au cinéma dans ces années-là. Je pense, j'ai vu par exemple le nom de Marc Casso, qui était un comédien qu'on voyait beaucoup dans des seconds rôles et qui fait partie de la distribution. Voilà, c'est un film de guerre. C'est un film de guerre comme on en faisait beaucoup à cette époque, hein, qui exaltait donc en même temps cet esprit de résistance. Alors le film finit par sortir. Moi, je crois l'avoir vu, mais c'était l'époque où on en voyait beaucoup dans ces années-là. Je peux pas en dire plus. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, il sort. C'est quand même une coopération Est-Ouest, hein, et c'est la raison pour laquelle Elsa a voulu y participer. Mais il sort en même temps en Union soviétique, donc on est au début des années 60, et Lily le voit en projection privée, hein, et il a bien marché d'ailleurs en Union soviétique.
Oui, puisqu'elle écrit à Elsa, « Je suis ravie que Normandie, Niemen aient du succès. Ici, la première n'a pas encore eu lieu, mais on a projeté le film dans plusieurs salles, et il a plu à ceux qui l'ont vu. » Alors, de son côté, Elsa lui répond, « J'ai connu avec la première de Normandie-Niemen et tous ces à côté d'ultime de fabuleuses contrariétés. Je suis persuadée qu'on avait donné la consigne à la délégation de ne pas me rencontrer. Qu'on ne rencontrait que des ennuis avec cette bonne femme, c'est intrigante. » En fait, Elsa, quand même, qui avait envie de préciser, elle voulait qu'il y ait quand même une certaine force dans ce film. Par exemple, elle trouvait que on ne parlait pas suffisamment de l'horreur des crimes nazis ou la souffrance des populations, et on la soutient pas tant que ça finalement. Hein.
Non. Le film va faire une bonne carrière en France, hein, et puis donc également en Union soviétique. Et il va être présenté au Festival de Cannes, donc, qui se déroule en mai 1960. Et il est salué par la critique, même s'il n'obtient pas de prix particulier. Mais en 1961, il reçut à Bruxelles une médaille spéciale comme préconisant l'action pour la paix. Voilà, donc c'est un film qui a sa raison d'être. Je me suis un peu renseigné autour de moi auprès de cinéphiles. Apparemment, il n'a pas été Il n'existerait pas en DVD. Enfin bon, il ressortira peut-être un jour. Alors, ce qui apparaît toujours chez Elsa, et on le sent un petit peu dans ce dépit qu'elle exprime dans le texte que lisait Maria, là, cette intrigante, par exemple. Elsa a quand même beaucoup de mal à être intégrée, dans ce monde, littéraire, artistique. Comme on le disait tout à l'heure à propos du CNE, après le monument, etc. Bon, elle en a marre de tout ça. Ce travail d'élaboration de ce film, cette collaboration, ça a quand même duré 13 ans, de 1947 à 1960. Et donc, elle en a assez de ça et elle va un petit peu changer d'optique. Et ça va nous amener à une trilogie, une trilogie romanesque qui s'intitule « L'âge de Nylon ». Alors, Elsa donc va délaisser un petit peu ce terrain très politique, comme on l'a dit. On a vu les suites de la Résistance, ensuite la guerre froide, l'artiste dans la politique, etc. Et elle va évoluer vers une direction qui privilégie le romanesque au détriment de l'autobiographie, puisque on a vu à plusieurs reprises, notamment le cycle Anne-Marie, par exemple, il y avait un aspect très autobiographique, également l'inspecteur des ruines, le monument, enfin toutes ces questions qui touchent de très près Mayakovsky et également le couple qu'elle forme avec Aragon. Donc elle va se lancer dans une trilogie, L'âge de Nylon, qui est composé de trois volets. Rose à crédit, qui sort chez Gallimard le 19 février 1959. Luna Park, qui est le deuxième roman qui sort, lui, également en 1959. Et un troisième roman, L'âme, qu'elle aura plus de mal à écrire, qui sortira, lui, en 1963. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Elle nous l'explique dans la postface qu'elle a rédigée pour les œuvres romanesques croisées.
C'est après avoir écrit Le Monument, ce petit livre où les questions de l'art dans la cité parlait aussi bien du désarroi et du désespoir du citoyen pris dans la toile d'araignée d'une situation politique donnée. C'est après le remue-ménage autour de ce monument, paru en 1957, que soudain j'en ai eu assez. Assez de ma personne, clairement pas de tout repos, assez de mes sentiments personnels qui, partagés par les uns, ne le sont point par d'autres. Assez de la bagarre. J'en avais assez de chercher en moi-même la couleur et le sens des choses. J'allais me laisser tomber comme une jupe en rond autour des pieds et que l'on enjambe. Ah, le repos d'écrire totalement en dehors de soi, même si dans l'écriture on s'évite difficilement. Si c'est encore votre visage qui vous renvoie la structure d'une phrase, le choix des mots, si on n'arrive pas à se rendre vraiment méconnaissable et que moi, petite et blonde, blanche à l'heure qu'il est, ne me réveillerai jamais un beau matin grande et brune. Néanmoins, j'allais maintenant raconter ce que je savais des autres. J'allais sortir de moi-même, comme qui dirait, en claquant les portes. Et c'est ainsi que j'ai écrit les trois romans de l'âge de Nylon. De Nylon, pour ne pas dire de plastique ou d'atome. De Nylon, inoffensif, transparent, solide et inflammable.
Voilà, donc il faut quand même situer, donc on est en 1959. La France s'est remise du... Des traumatismes et des destructions liées à la guerre, aux différents bombardements. Et on est tout de même dans cet essor, hein, les fameuses Trente Glorieuses. Et tout ça, ça signifie un progrès qui passe par les techniques, l'automobile. Hein, quand on lit, par exemple, je pense au livre de Roland Barthes, Les Mythologies, où il décrit justement ce monde, bah, par exemple la déesse, hein, qui doit dater de ces années-là, la télévision, enfin bon, il y a quand même une révolution au niveau de la vie quotidienne. Bon, ce qu'on va appeler la consommation, on entre vraiment dans l'ère de la consommation, hein, qui va débuter donc avec le, c'est également l'arrivée du général de Gaulle, la guerre d'Algérie et avec bon cette brisure, hein, qui aboutira en 68. Mais voilà, on entre dans l'âge du nylon. Alors Elsa Triolet, ce qu'elle va faire dans cette trilogie romanesque, il y a tout de même une interrogation à propos, je dirais, philosophique. Elle va s'interroger sur la nature du progrès. Et donc, on va évoquer aujourd'hui le premier de ces trois romans, qui est Rose à crédit, qui est un livre, personnellement, moi, que je trouve vraiment très, très beau. D'ailleurs, je remarque quand même, quand on se plaint du manque de livres disponibles d'Elsa, je crois que en folio c'est vraiment un livre qui est réédité sans cesse, et je pense qu'il est encore très lu, voire même étudié dans certains lycées ou voire même collèges. Alors Rose à crédit, donc il sort, comme on l'a dit, en 1959, et il anticipe une situation qui est encore très sensible aujourd'hui, qui est l'aliénation par la consommation. C'est toujours vrai aujourd'hui, bien entendu. Et ce roman est la critique acerbe d'une société tournée vers la consommation, et la seule consommation qui va confondre d'ailleurs la consommation avec le bonheur. Et alors, quand même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces choses-là, en 59, on les voit pas. Et je pense que Elsa, et c'est sans doute le rôle de l'artiste, hein, Elsa va anticiper un certain nombre de... Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de... Moi, j'y pense souvent, quand on parle de l'endettement de gens qui, se retrouvant au chômage, etc., coule et s'écroule complètement.
Je dirais même le surendettement.
Le surendettement, oui. Finalement, en 1959, Elsa va parler de ça. Alors, le personnage principal s'appelle Martine. Martine, c'est une jeune fille qui a été élevée dans une baraque. C'est même pire qu'un taudis, quoi. Enfin, c'est quasi la préhistoire, quoi. Elle est élevée par une mère très sauvageonne, une femme qui a des mœurs extrêmement légères. Martine, alors, elle a en elle une force. Elle veut sortir de sa condition sociale. Alors, comment sortir de sa condition sociale? Eh bien, il va y avoir un certain nombre de circonstances. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Daniel, qui est le fils d'un qui appartient à une famille de rosiéristes. Ce garçon, qui est vraiment un héros très positif, hein, il est passionné de génétique, et il est amateur d'art, il est amoureux de Martine, les deux personnages sont quand même extrêmement dissemblables, comme en témoigne cette description de Martine face à l'œuvre d'art.
Martine ne semblait pas savoir ce que c'était que la création, l'art. Curieux, Daniel l'avait emmené à une exposition dans une galerie de tableaux, une rétrospective d'œuvres classiques, des modernes. Qu'allait-elle aimer là-dedans ? Rien, dit Martine. J'aime mieux la toile sans peinture, dessus et propre. Daniel s'en trouva encore stupéfait. Formidable, cette négation de l'art, à l'état pur. Martine était quelqu'un d'exceptionnel. Et combien étrange, ces emportements avec lesquels elle disait « c'est beau » devant une devanture où étaient exposés des objets pour orner des intérieurs. Martine aimait ce qui est neuf, poli, verni, lisse, satiné, impeccable.
Alors, Martine pourrait accéder au bonheur, mais en fait, elle va s'enivrer à tel point de futilité et de faux-semblants qu'elle va sombrer dans une société de pacotille, vraiment de pure consommation. Et c'est un terrible constat, très pessimiste, hein, si on s'en tient uniquement à ce personnage de Martine, avant-coureur d'une société fondée sur la consommation, la seule consommation, hein, le supermarché, l'hypermarché, qui ne rend pas les hommes heureux en les détournant des vraies valeurs, ben, comme on le voit dans l'extrait que Maria vient de lire, hein, les vraies valeurs, la vraie beauté, ce qui constitue les vraies valeurs. Et le roman d'Elsa obtient un grand succès public, et aujourd'hui encore, donc il demeure une œuvre très lue, et c'est bien. Puis en plus, Elsa, on retrouve toujours cette chose très agréable chez elle. Elsa se lit très bien. Elle est quand même d'un accès facile à la lecture. Et on va assister au fil des pages et au fil des situations au naufrage de Martine. Hein. Alors bon, ben au début, elle veut un beau canapé, après une belle salle à manger, une belle chambre à coucher. Donc elle s'endette et elle va s'enfoncer de plus en plus. Alors que tout de même. Elle est sortie de sa caverne, hein, puisqu'elle vient quand même de loin, et elle est bien entourée. Bon, ben le personnage de Daniel, c'est un personnage extrêmement positif. Et puis elle a également une amie, elle a des amis, elle a sa patronne également, qui est quelqu'un de très attentif, qui veut l'aider, etc. Mais au bout d'un moment, elle est tellement endettée, donc elle travaille dans un salon d'esthétique, hein,
oui.
Elle est tellement endettée que, alors que sa patronne justement lui fait des prêts, hein, lui prête de l'argent, etc., elle s'endette tellement qu'elle finit par lui piquer sa propre clientèle du salon pour en marge justement gagner encore davantage. Et puis bon, elle s'embarque aussi un moment dans un radio-crochet, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, là, les Zappimax, etc., où elle chante, bref. Et petit à petit, elle va complètement s'écrouler.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que elle en avait jamais assez de cette manie d'acheter, vouloir, toujours vouloir. Et finalement, elle c'était du tout n'importe quoi. Par exemple, on peut dire Martine avait mauvais goût. Bon, ce n'était pas grave. Mais qu'elle y tint si férocement à ce cosy, c'était cela qui était incompréhensible et compliquait tout. Elle voulait des choses, des affaires, des objets. On dirait une drogue. Il les lui fallait coûte que coûte. Daniel se fâchait à nouveau. C'était trop idiot. Le mystère, la grandeur de Martine s'évanouissait parmi les tabourets en tubes métalliques, le bahut à possibilité de rangement inouï, le tapis en caoutchouc de la salle de bain, les tasses du petit déjeuner, le matelas à ressort, et ainsi de suite. Ce que je voudrais ajouter, pour moi qui ai travaillé pendant longtemps dans la grande distribution, c'est que Elsa Triolet décrit Martine avec ses besoins et ses lubies, qui en devient sensiblement une drogue. Mais ce qui est plus grave, c'est que maintenant que le temps a passé et on peut avoir du recul par rapport à sa pensée, je me rends compte que, en fait, la politique de ces grands distributeurs est justement d'essayer de donner cette envie aux gens. Vous rendez compte comme la période est vicieuse en ce moment, oui. Créer le besoin et donner envie d'acheter. Ce qui fait que ce que avant on pouvait montrer du doigt pour une femme ou une autre qui essayait de s'en sortir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la guerre et tout ce qui a suivi, eh bien là c'est l'inverse. Là on essaye d'amener les personnes à être vraiment plus bas au niveau de l'idée et du choix de vie.
Et alors, ce qu'il y a de pathétique, en fait, c'est que Daniel, le mari de Martine, donc qui encore une fois rosiériste, passionné par la génétique, veut mettre la science au service du beau et de l'amour, finalement. Et il veut créer une rose nouvelle, donc, pour sa femme, en reprenant le parfum d'une rose ancienne. Et donc c'est une utilisation de la science pour un monde nouveau, pour un plus, pour du bonheur. Mais il se trouve que Martine, alors c'est ça qui est terrible dans la description de ce personnage. En fait, Martine, elle dégrade tout, parce qu'en fait dans cette rose, ben elle va pas du tout y voir ce que Daniel veut y mettre. Et c'est ce qu'elle va dire au moment de... Enfin, ce qu'elle imagine que la rose va lui permettre de faire à nouveau, toujours dans l'ordre de la consommation.
Puisqu'elle avait épousé Daniel, elle s'était mise à croire à la réalisation des chimères. La rose parfumée que Daniel allait créer pimentait la chaude monotonie des jours. Martine rêvait. Cette rose aurait le grand prix du Goncourt de Bagatelle ou de Lyon, de Genève, de Rome. La rose porterait son nom à elle, Martine Donnell. Il y aurait des milliers de rosiers Martine Donnell dans le monde entier. Et le créateur de la rose, Martine Donnell, serait couvert de gloire et d'argent.
Et voilà. Et l'argent qui donc va permettre toujours d'aller vers de plus en plus de consommation et pas de consolation justement. Et donc c'est cet idéal, l'idéal de Martine finalement, c'est l'électroménager. Et je pense que là on pourrait peut-être il y a une chanson qui doit dater de la même époque, hein, je sais pas l'année.
Oui, bon, pas l'enregistrement qu'on va entendre, mais la composition de Boris Vian, oui, c'est l'époque des arts ménagers, quoi, des années 60. Il s'agit de la complainte du progrès. Là, on a choisi une interprétation relativement récente, en tous les cas, une des dernières. C'est celle de Bernard Lavilliers.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du plein lobile, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer. chauffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à touffe, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et l'on se garde tout. Hey, Gudule, excuse-toi. Ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon sirop potasse, mon repas en limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette pour faire la vinaigrette, le ratatine ordu et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore belle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe savate, au canon à patate, à l'évente tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède parce qu'il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça.
Bernard Lavillier, qui a écrit aussi une musique sur ce texte de Boris Vian. Bon, il y avait la traditionnelle version mise en musique par Alain Gouraguer, par Vian, par Mouloudji et pas mal d'autres interprétations, mais voilà, vous avez le texte est bien le même et en résonance complète avec tout ce qu'on avait dit auparavant. Il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission. Je vous redonne la parole.
Oui. Alors bon, la fin de Martine est absolument abominable dans le roman d'Elsa, hein, puisque elle retourne dans la baraque d'où elle vient. Et elle est dévorée par des rats au point que elle n'a plus de visage, dit le personnage du roman qui la retrouve. Mais pour conclure, ce qu'il faut dire, c'est que comme ça s'était produit pour le Cheval Roux, hein, Elsa s'était adressée à Frédéric Joliot-Curie. Elsa va se documenter très précisément sur la génétique, sur les roses, etc. Et donc il y a cette réflexion sur, je dirais, cette réflexion sur l'avenir, sur l'avenir de l'homme, grâce justement, grâce à la science. Hein, science qui a sans doute été détournée pour des buts purement lucratifs. Hein, bon, aujourd'hui, quand on parle de la malbouffe, etc. Bon, et là-dessus, je trouve que le propos d'Elsa, ben, il rejoint peut-être aussi celui d'Aragon quelques années plus tard, notamment dans Le Fou d'Elsa. Hein, ce propos sur l'avenir, sur la possibilité ou non de créer le bonheur dans l'avenir. Mais quand même, on insiste sur l'aspect noir du roman. Il y a quand même les dernières phrases du livre, c'est que cette fameuse rose que Daniel voulait créer, ben effectivement, je lis la dernière phrase du livre, c'est en 1958 qui est apparue sur le marché la rose parfumée Martine Donnell. Elle a le parfum inégalable de la rose ancienne, la forme et la couleur d'une rose moderne, avec les félicitations du jury. Et elle obtient le premier prix. Donc voilà, on termine quand même sur un aspect, sur cet aspect positif, voilà, d'une science qui peut concourir au bonheur des humains et non pas les aliéner et les conduire à la catastrophe.
L'espoir.
Voilà.
Voilà. Prochaine émission, ce sera sur quel thème?
Alors, ce sera bien sûr les deux romans suivants, donc Luna Park et puis L'âme, et puis sans doute Les Manigances, qui est le livre qui suit. Quoi. On sera en plein cœur des années 60.
Eh bien, merci, et puis à bientôt pour cette future émission.
À bientôt, Jean-Pierre.
Au revoir.
Thank you.